Chapitre 1. Il faisait chaud dans l'imposante bâtisse de pierre, y compris au sous-sol où Debbie Speck s'affairait à ranger les courses que son mari, Jack, venait de rapporter. Ce dernier était en âge. Âgé de 44 ans, quelque peu en surpoids, le cheveu rare et brun, l'homme empestait l'aftershave, censé masquer les relents de whisky bon marché qu'il buvait le soir. Au moindre effort physique, il transpirait l'alcool par tous les pores. Debbie, qui avait elle aussi un bon tour de taille, buvait volontiers un ou deux verres avec lui. Elle ne disait jamais non à un gin tonic ou à de la vodka, qu'elle gardait dans le congélateur de l'appartement où leur patronne ne s'aventurait jamais, afin de respecter leur intimité. Et cela leur convenait très bien. Cela faisait 15 ans qu'ils œuvraient en tant que gestionnaires de biens et employés de maison pour Meredith White, une célèbre actrice désormais à la retraite et recluse. Quand elle les avait embauchés, elle enchaînait les films et son époux, l'acteur et producteur Scott Price, faisait de même. Il leur arrivait parfois de ne pas se croiser pendant des mois du fait de leurs tournages respectifs. Pour Debbie et Jack, travailler dans une maison aussi immense et luxueuse était déjà inespéré. Mais travailler pour des patrons souvent absents qui leur vouaient une confiance aveugle, c'était une véritable aubaine. À leur début, Jack et Debbie avaient à peine 29 ans, mais connaissaient les avantages secrets de ce type d'emploi, à savoir qu'il n'y avait qu'à tendre la main et se servir. En effet, les magasins et les entreprises avec lesquelles ils faisaient affaire pour satisfaire les désirs de leurs employeurs leur versaient de généreux pots de vin ou leur fournissaient gratuitement des services qu'ils refacturaient ensuite à leur patron. Les professionnels de ce genre étaient légion, comme le savaient bien Jack et Debbie, qui avaient ainsi établi, dans les mois suivant leur arrivée, tout un réseau de relations. Ils n'avaient aucun scrupule à escroquer leurs employeurs. À vrai dire, ils les choisissaient même en fonction du profit qu'ils pouvaient en tirer. Travailler pour Meredith White cochait toutes les cases. Il s'agissait d'une actrice de cinéma très bien payée, le salaire proposé était généreux et on leur avait alloué un appartement qui, en plus d'être joliment meublé, disposait d'une entrée indépendante. Ils habitaient ainsi dans l'une des plus grandes maisons de San Francisco, située à Pacific Heights, le quartier résidentiel le plus coté de la ville. Meredith et Scott y avaient emménagé à la naissance de leur fils Justin. Leur fille, Kendall, venait d'avoir 12 ans et ils ne voulaient pas élever un autre enfant à Los Angeles. À leurs yeux, San Francisco était une ville à taille humaine, plus saine, avec d'excellentes écoles et une météo clémente toute l'année. Enfin, la maison et son terrain offraient tout l'espace et l'intimité recherchés derrière l'immense haie plantée dès leur arrivée. C'était Meredith elle-même qui leur avait confié ces détails. Lorsque Jack et Debbie avaient pris leur poste, Kendall vivait déjà à New York depuis 7 ans. Elle y avait fait ses études, puis s'était mariée et avait eu une fille, Julia. Elle ne revenait à San Francisco que pour les fêtes de Noël. En Californie, Justin bénéficiait quant à lui d'une éducation royale, avec des professeurs particuliers et un chauffeur privé pour le conduire à l'école quand ses deux parents étaient absents. La configuration était donc idéale pour un couple comme Jack et Debbie. Au fil des années, ils avaient pleinement tiré parti de tous les avantages de leur situation. Avec les pots de vin, ils avaient amassé un beau pactole. À cela s'ajoutaient quelques trésors subtilisés au sein de la maison, tels deux toiles de peintres français reconnus. Elles avaient une grande valeur et Debbie en était tombée amoureuse, si bien qu'elle avait décidé de les relocaliser dans leur quartier. Meredith n'avait jamais remarqué leur disparition. Pas plus qu'elle ne vérifiait le compte en banque dédié aux dépenses de la maison, que Debbie avait proposé de gérer à sa place afin de la décharger de cette corvée. Depuis des années, l'employé détournait ainsi de petites sommes qui atterrissaient sur son compte personnel. Les montants étaient si modestes que le comptable de Meredith n'y voyait que du feu. Jack et Debbie savaient s'y prendre. Ils étaient toujours aux petits soins pour leurs employeurs. Ainsi, lorsque la vie de Meredith avait volé en éclats 14 ans plus tôt, ils avaient fait preuve de beaucoup de compassion et de gentillesse. La maîtresse de maison avait vu son monde de rêve se déliter et disparaître en quelques mois, ce qui l'avait rendue distraite et encore moins attentive à ses comptes. Tout avait commencé par la révélation d'un adultère. Scott, alors âgée de 55 ans, avait entamé une liaison avec une actrice italienne qui avait la moitié de son âge. Le célèbre couple semblait pourtant solide, d'une stabilité inhabituelle dans ce milieu. D'après ce que Jack et Debbie avaient pu constater, les deux stars paraissaient très attachées l'une à l'autre, ainsi qu'à leurs enfants. Leur vie avait été bouleversée après le départ de Scott pour un tournage à Bangkok. À peine revenu, il avait quitté Meredith pour emménager avec Sylvana Rossi à New York. Profondément blessée par cette trahison, Meredith avait néanmoins fait bonne figure pour ses enfants. Au grand étonnement de Jack et Debbie, elle ne dénigrait jamais Scott devant Justin. Mais Debbie l'avait plus d'une fois surprise à pleurer seule dans sa chambre. Dans ces cas-là, la gouvernante la réconfortait d'une accolade chaleureuse. C'est à cette époque que, humiliée par les articles qui paraissaient dans la presse People, leur patronne avait renoncé à toute vie sociale. Ne sortant plus que rarement, elle avait reporté toute son attention sur son fils. C'est elle qui l'emmenait désormais à l'école et au sport. Elle passait du temps avec lui et dînait chaque soir en sa compagnie. Une fois, Debbie l'avait même entendu refuser un film parce qu'elle voulait rester à la maison avec son fils jusqu'à ce que le scandale retombe. Justin avait été très affecté par toute cette affaire. Il s'en ouvrait à Jack et quand il se rendait à New York pour voir son père, il en revenait à chaque fois en disant qu'il détestait sa future belle-mère. À l'occasion d'une de ses confidences, il l'avait même traité de pute de bas étage, ce que Jack avait aussitôt rapporté à Debbie. D'après l'adolescent, sa sœur non plus n'aimait pas l'italienne. Mais le couple d'employés n'aurait su le confirmer, connaissant peu la jeune femme. Meredith ne parlait jamais de Sylvana. C'était une femme digne, discrète et respectueuse, quels que soient ses sentiments à l'égard de la starlette. Elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à son fils. Et Debbie ne pouvait s'empêcher de l'admirer pour cela. Avec Jack, ils n'avaient pas d'enfants. Ils s'étaient rencontrés à San Diego, lors d'une cure de désintoxication imposée par la justice. Jack avait alors à son actif plusieurs arrestations pour des délits mineurs, principalement la fraude à la carte bancaire afin de financer sa consommation de drogue. Quant à Debbie, elle avait été condamnée pour de menus larcins, vol à l'étalage et possession de marijuana. Ils avaient à l'époque 22 ans et avaient passé 6 mois en désintoxication. Là-bas, ils avaient échafaudé le plan de travailler ensemble, un plan qui s'était transformé en amour, sinon en une mise en commun de leurs ambitions au service de leurs intérêts. C'est ainsi qu'ils s'étaient mariés, car on décrochait de meilleurs emplois dans le domaine de la gestion de biens en tant que couple. C'est Jack qui avait suggéré de travailler à demeure chez des nantis. Cela pouvait rapporter gros et offrir l'occasion rare de monter ensuite des projets de plus grande envergure. Quand Debbie s'était récriée, il n'était pas question pour elle d'être bonne à tout faire, de récurer les toilettes ou de porter un uniforme. Il lui avait expliqué qu'en tant que gestionnaire, il leur incomberait seulement de gérer le personnel de ces belles propriétés. Ils pourraient faire ce qui leur chanterait et embaucher d'autres personnes pour nettoyer les sanitaires, la maison, jardiner. Et ils se construiraient ainsi une vie agréable sans trop d'efforts. Ils pourraient même empocher quelques biens de valeur en l'absence de leurs employeurs et accuser quelqu'un d'autre. Mais aussi voler du liquide tout en se faisant rondement payer pour vivre chez des riches. Il lui en avait dressé un tel tableau qu'elle avait été convaincue et dès leur sortie, ils avaient mis leur plan à exécution en se présentant dans une célèbre agence de placement de Los Angeles avec de fausses références rédigées par Jack lui-même. Ces références provenaient prétendument d'un couple mort sans héritier et personne ne pouvait donc rien corroborer ni infirmer. L'agence ne s'était pas montrée tatillonne et les propriétaires n'avaient pas demandé à consulter leur casier judiciaire. Leur premier poste s'était soldé par un renvoi pour incompétence. Mais ils avaient appris en chemin et avaient enchaîné à Palm Springs, chez un couple âgé qui était vraiment mort cette fois. Ils étaient si vieux qu'ils faisaient à peine attention aux faits et gestes de leur personnel et leurs enfants étaient juste ravis d'avoir des gens serviables et responsables pour veiller sur leurs parents. Ils avaient même laissé un petit legs à l'intention de Jack et Debbie, ainsi que d'authentiques références qui leur avaient permis de se faire embaucher à San Francisco auprès de Scott et Meredith.